Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, pour la réforme des retraites, il faudra certainement attendre après les municipales. La concertation prendra un peu moins d'un an, dit le ministre du Budget. Projet de loi examiné dans les mois à venir, vient de préciser le Premier ministre. Bonjour Yaël Goz.
Bonjour Bruno.
Chef du service politique de France Inter, comment interpréter cela ?
Ça veut dire prudence, ça veut dire qu'on se donne du temps, beaucoup de temps, et qu'on veut surtout éviter de gêner les candidats à venir aux municipales, les candidats en marche.
Vous nous détaillez cela dans un instant. La Chine durcit le ton contre les manifestants à Hong Kong. L'un des leaders de la contestation, Joshua Wong, est à nouveau arrêté. L'espace, sujet un peu plus crucial chaque année pour les militaires. Donald Trump lance un commandement militaire de l'espace. 15 000 soldats dans les années à venir. Quelles sont les menaces? À quoi peut bien ressembler une guerre des étoiles au 21e siècle? Notre invité pour en parler sera Xavier Pascaud, le directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Dans l'actualité encore, les arrêtés anti-pesticides se multiplient dans les villes et villages. La rentrée des profs, aujourd'hui, quelle ambiance? Nous verrons cela avec Sonia Princé. J'ai testé pour vous en cette rentrée le cartable écolo à base de bouteilles plastiques recyclées. Et puisqu'on parle d'environnement, c'est chaque jour à 13h30 sur France Inter. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré, quel est le menu aujourd'hui?
Les populations d'insectes s'effondrent ces dernières années en cause d'une nouvelle génération de pesticides. Le journaliste du Monde Stéphane Foucard a enquêté sur ce désastre écologique. Posez-lui toutes vos questions dès maintenant.
Au 01 45 24 7000. Merci Mathieu, à tout à l'heure. Avant cela, une longue page culture et sport dans le 13h. La polémique Roman Polanski à la Mostra de Venise, des inédits de Manu Chao et puis les frasques des joueurs français à l'US Open de tennis. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
La concertation sur la réforme des retraites va donc durer un peu moins d'un an, annonce de Gérald Darmanin ce matin, le ministre du Budget. Un peu moins d'un an de concertation, dit-il, avec la société, avec les avocats, avec les infirmières, avec les professeurs, avec tous ceux qui sont concernés. Dernière précision sur ce sujet, le Premier ministre lors d'un déplacement dans le Var, Édouard Philippe.
Nous avons quelques mois pour mettre en œuvre, plus exactement pour écrire et concevoir ce projet de loi. Le président de la République l'a rappelé lors de son interview du début de la semaine, ou de la fin de la semaine dernière. Il a indiqué qu'il était attaché à ce qu'il y ait beaucoup d'échanges avec les Français sur ce sujet. C'est d'ailleurs un des marqueurs de l'acte 2, c'est-à-dire de cette méthode à laquelle nous croyons, que nous mettons en œuvre, qui consiste à dire notre détermination à tenir les engagements est absolument identique, et croyez-moi, ma détermination, elle est totale. Mais dans la méthode, nous voulons tenir compte, prendre le temps d'abord de partager sur un texte aussi important. Si nous ne le faisions pas, vous nous le reprocheriez à juste titre. Prendre le temps de parler avec les Français, prendre le temps de bien expliquer les enjeux, de bien expliquer les solutions que nous proposons, de tenir compte de ce qui sera dit pour faire un projet de loi qui sera présenté au Parlement comme je m'y suis engagé dans les mois qui viennent. Jeudi et vendredi, je rencontrerai avec Agnès Buzyn et avec Jean-Paul Delevoye l'ensemble des organisations syndicales et patronales, justement pour évoquer cette réforme et notamment le calendrier, le rythme, la méthode avec laquelle nous allons préparer le projet de loi.
Un propos recueilli par Olivier Martoc ce matin. Yaël Goz, comme promis, vous êtes avec nous. Alors, la réforme des retraites, longtemps de concertation. Il y a deux façons d'analyser cette information. Petit 1, le gouvernement accorde beaucoup d'importance à la concertation et où il reporte après les municipales une réforme explosive.
Il y a le niveau de lecture numéro 1, c'est le grand flou pour l'instant en réalité, hein, depuis qu'Emmanuel Macron a changé de pied. À Matignon, on a bien entendu la petite phrase de Gérald Darmanin ce matin, mais on ne confirme rien. Vous avez entendu la formule consacrée, c'est dans les mois qui viennent, dans les mois qui viennent. Et pour cause, le Premier ministre n'a pas encore reçu les partenaires sociaux, il l'a dit, et son séminaire de rentrée avec l'Élysée et le gouvernement n'a pas encore eu lieu, ce sera mercredi prochain. Se dirige-t-on vers une année sabbatique, à zéro risque sur le front des réformes? Au gouvernement, les ministres ont parfaitement compris qu'il allait falloir lever le pied, donner du temps au temps. Et quand Gérald Darmanin dit moins d'un an, il faut comprendre plus de 6 mois, donc au-delà des élections municipales. Ce qui est vu d'un très bon œil au sein de La République En Marche, où l'on respire, car il sera plus facile pour les candidats marcheurs novices sur les municipales de faire campagne sans ce stress des retraites. Urgent d'attendre donc. D'ailleurs, on parle de concertation au pluriel maintenant entre le grand débat chez les Français, la négociation à venir avec les syndicats et les cas complexes à déminer, retraite des aides-soignants, des enseignants, des infirmières libérales, etc. Horizon flou, le cap de l'acte 2, c'est d'abord celui d'un apaisement généralisé, au risque d'être accusé de manquer de courage. Les rivaux d'Emmanuel Macron ont parfaitement intégré cette nouvelle donne. Xavier Bertrand disait hier soir au MEDEF qu'il ne fallait pas avoir peur de bousculer les conservatismes et d'être impopulaire, une pierre dans le nouveau jardin d'Emmanuel Macron.
Merci Yael Gosse. C'est lors d'un déplacement au lycée polyvalent Val d'Argence, au Muy, dans le Var, que Édouard Philippe s'est exprimé sur cette réforme des retraites. Déplacement dans un lycée parce que c'est la rentrée des enseignants aujourd'hui, avant celle des élèves lundi prochain. Les dossiers de l'année au lycée, c'est la disparition des filières pour l'enseignement général et technologique. Et on en parle moins, mais une réforme de l'enseignement professionnel est en cours aussi. Bonjour Sonia Princé.
Bonjour.
Alors quel est le climat? Vous avez pris la température dans un lycée polyvalent, vous aussi, lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise en banlieue parisienne. Tout le monde est concerné par une réforme dans ce lycée. Les enseignants se retrouvaient donc ce matin avant d'entrer dans le dur. Le proviseur a voulu un peu de douceur, Sonia.
Bonjour, ça va?
Les enseignants se sont d'abord retrouvés effectivement autour d'un café et de petits croissants.
Cette année, alors je vais avoir des secondes, des premières en enseignement scientifique et des terminales. On va découvrir la nouvelle réforme, mais on essaye d'être positif. Voilà. On arrive tous avec le sourire, l'énergie. Voilà, on est dopé par les vacances. La difficulté supplémentaire, c'est déjà qu'on a travaillé pendant l'été, donc ça a été des vacances studieuses.
Un instant.
Le proviseur Alain Procard est très vite entré dans le vif du sujet. La réforme qui va nécessiter beaucoup de travail et beaucoup de concertation.
Les équipes de première vont avoir droit aussi à des réunions d'information, parce que je vous avoue que le nouveau baccalauréat, avec les épreuves de contrôle continu, réclame une grande attention. On est vraiment dans une année de transition, puisque nos terminales sont dans l'ancienne configuration. Que fait-on des élèves de terminale en termes d'épreuves qui ratent le bac cette année ? Donc je vous interdis de me poser des questions là-dessus aujourd'hui.
Il reste de nombreux points d'interrogation, mais ce matin, les enseignants étaient surtout très impatients de découvrir leurs emplois du temps.
Compliqué.
Chargé, des heures qui n'étaient pas prévues, donc presque 8h, 17h tous les jours.
Sauf et des trous,
voilà.
Les professeurs se sont ensuite mis au travail pour se concerter par discipline sur les nouveaux programmes avant l'arrivée des élèves lundi.
Sonia Princé en direct de Nogent-sur-Oise, en très 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 grande banlieue parisienne, parce qu'on est dans les Hauts-de-France déjà, au sud de Beauvais et Compiègne. En Loire-Atlantique, dans l'école privée de Sainte-Pazanne, la rentrée se fera sous le signe de l'inquiétude. Des parents ont alerté les autorités sur une série de cancers pédiatriques, mais l'école ouvrira normalement à la rentrée après une série d'analyses menées durant l'été. Écoutez, Nicolas Durand, c'est le directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire.
Plus de 150 prélèvements et mesures ont été faites sur l'eau, sur l'air, sur le sol, le radon, les champs électromagnétiques. Par rapport aux valeurs de référence, avec l'état des connaissances, il n'y a pas de risque avéré pour l'école, pour les enfants et pour la communauté éducative. Cela dit, il y a des points d'attention, la qualité de l'air intérieur, le radon, et donc on a recommandé à l'école de prendre des mesures immédiates d'aération, de contrôle du système de ventilation. On poursuit parallèlement les investigations. Nouvelle campagne de mesures à l'école en hiver. Campagne de mesures d'investigation au logement des enfants atteints de cancer. Et si on a d'autres éléments préoccupants, on ira, c'est la même méthodologie, on mesure, on interprète. Et si nécessaire, on agit.
Un propos recueilli par nos confrères de France Bleu Loire-Océan. L'initiative du maire de Langouette fait des petits. L'initiative de ce maire de l'Ille-et-Vilaine interdit d'épandage de pesticides près des maisons. Alors que pour l'instant, l'État n'a pas pris de mesures et que son arrêté a été retoqué par la justice administrative. Une série de maires dont les villes et villages à travers la France font la même chose. Écoutez, Brigitte Reynaud, elle est maire sans étiquette d'un village de moins de 300 habitants, reveste des brousses.
Si je le soutiens d'une majorité de mes élus et de la population, les agriculteurs ne sont pas très en phase avec moi. Nous, on n'est pas contre les agriculteurs. On a aussi envie de les protéger, de nous protéger, de protéger tout le monde. Et c'est notre devoir de maire. Et quand je lis la lettre du préfet qui dit que mon arrêté est comme celui des autres maires, est entaché d'illégalité, que ce n'est pas à nous de prendre cette responsabilité, je dis, mais où on va? Où on va? Depuis quand le maire ne prend pas soin de la santé de ses habitants? Je ne comprends pas. Nous, on est sur le terrain tous les jours. On est en contact de tout ce qui se passe. Et j'aimerais à un moment, comme tous mes collègues maires qui sont avec nous dans cette galère, j'aimerais qu'à un moment, au plus haut de l'État, on nous entende. On nous entende, nous, leurs représentants directs.
Brigitte Reynaud de Reveste-des-Brousses, maire de Reveste-des-Brousses dans les Alpes-de-Haute-Provence, interrogée par Béatrice Duguet ce matin. L'actualité en région ce week-end, c'est la fameuse braderie de Lille. Quelques chiffres clés, 500 tonnes de moules, 30 tonnes de frites et 2,5 millions de visiteurs attendus dans la capitale des Hauts-de-France. Une nouvelle expertise médicale dans l'affaire Théo. Ce jeune homme a été grièvement blessé après une interpellation il y a 2 ans et demi, février 2017, à Aulnay-sous-Bois, une matraque entre les fesses, matraque télescopique. La nouvelle expertise établit qu'il y aura des séquelles à vie. Par ailleurs, dans cette analyse, le reproche est fait au jeune homme de ne pas avoir suivi tous les conseils des médecins. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Séquelles à vie au plan judiciaire, cela peut changer beaucoup de choses, Emmanuel.
Oui, et de sources judiciaires, on confirme ce matin les conclusions de cette nouvelle expertise médicale sur une infirmité permanente pour Théo Luaka. C'est une gastro-entérologue experte auprès de la Cour d'appel de Paris qui a établi le diagnostic avec un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique du jeune homme évalué à 20%. Si la première expertise médicale que nous avions révélée ne permettait pas de valider la thèse d'un viol par rapport à l'emplacement de la blessure, cette deuxième expertise sur la gravité des conséquences de cette même blessure ouvre la voie effectivement malgré tout à un possible renvoi devant une cour d'assises du policier qui a porté le coup ainsi que ses collègues. C'est évidemment ce que les avocats des policiers espèrent encore éviter en demandant rapidement une contre-expertise médicale, selon l'un d'entre eux. Ils espèrent également que la juge d'instruction en charge du dossier retiendra que le geste du policier, le coup de matraque, était légal même s'il a frappé au mauvais endroit et que c'est bien la rébellion de Théo qui de facto était illégitime avec au bout du compte un non-lieu pour leur client policier. Pour les avocats de Théo, cette nouvelle expertise est au contraire la confirmation de la nature criminelle d'un tel coup de matraque. Ils affirment déjà qu'ils feront appel si la juge en charge du dossier devait au final abandonner la qualification de viol.
Merci Emmanuel Leclerc. L'actualité économique et les difficultés de la grande distribution. La holding Auchan a essuyé au premier semestre, les 6 premiers mois de l'année, une perte nette très importante, 1,5 milliard d'euros.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Voilà une information qui a un petit parfum de film de science-fiction. Donald Trump a lancé cette nuit pour les États-Unis un commandement militaire de l'espace. Spacecom, il devient le 11e commandement militaire américain. Cette force de l'espace devrait compter à terme 15 000 soldats. Bonjour Xavier Pascaud.
Bonjour.
Directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Alors voilà une information qui amène beaucoup de questions. On va en parler avec vous. Partons de la déclaration de Donald Trump à la Maison-Blanche ces dernières heures. Traduction Grégory Phillips.
Nos adversaires, dit le président américain, développent des armes spatiales pour cibler nos satellites qui sont si importants pour nos opérations sur les terrains de guerre et pour notre style de vie, ici, chez nous.
Nos adversaires développent des armes spatiales. Qu'est-ce qu'une arme spatiale ?
Une arme spatiale, c'est quelque chose qui est aussi vieux que l'espace, j'allais dire.
Oui.
En fait, il y a différents types de systèmes qui peuvent affecter un satellite. Alors, il y a des systèmes qui sont au sol.
Parce que c'est ça qui est visé en premier lieu, les satellites.
Les satellites, c'est ce qu'on vise. Ouais. Alors, on a eu récemment avec l'Inde un test anti-satellite auquel il était procédé au printemps dernier avec un missile qui est parti du sol qui a détruit un satellite indien. Alors ça, c'est pour faire une démonstration de force en quelque sorte.
D'accord.
Et puis, il y a des systèmes dans l'espace qui peuvent être adaptés pour soit détruire un satellite, soit perturber son fonctionnement. Alors le détruire, par exemple une collision, exploser à proximité, perturber son fonctionnement, envoyer des ondes à très forte puissance, voire même utiliser des lasers. Donc c'est ce genre de choses qu'on redoute, même si aujourd'hui on n'a pas de guerre dans l'espace qui soit avérée.
Pas de guerre, néanmoins Donald Trump parle de nos adversaires. Est-ce qu'il y a un contexte international qui justifie de renforcer comme ça une présence militaire dans l'espace?
Du point de vue américain, il y a un double contexte.
Oui.
D'abord, un contexte intérieur. Le président Trump évoque cette Space Force depuis quelques mois. Alors, le commandement spatial qui vient d'être annoncé n'est pas la force spatiale, la nouvelle armée de l'espace que Trump souhaite. Mais Trump dit que c'est une première étape. Sauf que ce n'est pas une première. Il y a déjà eu un commandement spatial américain créé dans les années 80, abrogé en 2002 à peu près, parce qu'on estimait qu'il fallait refondre ça dans un commandement plus large. Et là, on le remet sur le tapis, j'allais dire, parce que, et là c'est un peu symbolique quand même, du fait que les militaires américains considèrent depuis une quinzaine d'années à peu près que l'espace peut devenir un lieu de confrontation. Jusqu'à présent, pendant la guerre froide, les gens finalement utilisaient l'espace comme un sanctuaire pour se surveiller mutuellement. On n'avait pas intérêt à se chercher des noises, j'allais dire. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte. L'espace sert beaucoup aux opérations, et on l'entend, le président l'a dit lui-même, mais ça c'est tout à fait vrai, sert beaucoup aux opérations militaires, pas seulement aux Américains d'ailleurs, aux Russes, aux Chinois, aux Français, y compris.
Oui.
On s'en sert pour mener des opérations militaires, absolument. Et donc, on estime que ces satellites peuvent être désormais ciblés, ce qui est un peu nouveau. Donc, on veut les protéger à partir de là. Alors, la date quand même qu'il faut retenir, c'est 2007. Première expérimentation chinoise de destruction d'un satellite. Et ça, ça a vraiment déclenché chez les Américains ce raisonnement, on va dire.
Les Français sont prêts sur ce terrain-là ou pas?
Alors les Français, vous savez qu'il y a eu cet été l'annonce de la création d'un commandement des forces spatiales.
Oui,
les Français juillet. Prennent, en fait, cette création au niveau français, finalement, prend conscience, montre qu'il y a une prise de conscience du fait que d'abord, on est de plus en plus dépendant de l'espace pour nos propres opérations militaires,
oui.
Et que l'environnement spatial est de moins en moins lisible. Il va y avoir de plus en plus d'objets qui bougent dans tous les sens. Et donc, il y a une sorte d'effet de cisaillement. Et donc, il y a eu la volonté d'organiser le ministère des Armées un peu différemment. Donc oui, il y a cette idée-là. On n'en est pas aujourd'hui à développer des armes spatiales, mais on a un discours un peu dissuasif désormais. On regarde un petit peu s'il faut se protéger.
Au-delà de l'annonce d'Emmanuel Macron mi-juillet, vous en parliez, on a appris, dans la matinale ce matin, Yann Gallic avait publié un reportage sur une équipe qui est en place au sein de l'armée française, chargée d'échafauder au fond tous les scénarios possibles. Elle s'appelle la Red Team. Il y a des dessinateurs, des auteurs de science-fiction, des spécialistes de l'anticipation. On imagine quoi aujourd'hui, les gens sérieux, hein, pas des foufous, les gens sérieux imaginent quoi aujourd'hui à propos de guerre dans l'espace?
Alors, l'équipe dont vous parlez, d'ailleurs, ça va au-delà de l'espace. Hein. Ouais. Je crois que c'est l'Agence d'innovation de défense,
exact,
qui met ça en place.
C'est coordonné par un astrophysicien, me semble-t-il. Hein.
Bien sûr. Voilà. Il y a un aspect, évidemment, prospective spatiale, presque science-fiction.
Oui.
Bon, l'idée, quand même, c'est de comprendre vers quoi on va. Qu'est-ce qu'on va être dans l'espace, oui, en 2030-2040? Les technologies ont évolué, quand même. L'espace est né de la guerre froide. C'était quelque chose d'assez plan-plan, j'allais dire. Et là, il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup évolué en termes de technologie. On fait des satellites qui manœuvrent de plus en plus. Donc la manœuvre, ça parle aux militaires, ça. Et puis aussi, on a de plus en plus d'acteurs. On a des acteurs privés qui vont mettre dans l'espace des milliers de satellites. Ouais. Ça, c'est tout à fait nouveau. L'espace, c'était un truc assez vide quand même. Ça va se remplir sur certaines orbites. Et donc, on a une situation spatiale qui va se compliquer considérablement. Les militaires, aujourd'hui, veulent comprendre cette situation. Et donc, l'une des priorités qu'ils ont aujourd'hui, c'est la surveillance de l'espace, la compréhension de ce qu'ils appellent la situation spatiale.
Et je l'ai glissé comme dernière question, parce que la formulée est difficile, mais on pense, on raisonne, là encore, des hommes sérieux, en termes d'extraterrestres ou absolument aucun moyen, à aucun moment.
Alors aujourd'hui, c'est pas tout à fait l'ordre du, ouais, jour. Hein. Je pense qu'il y a d'autres préoccupations, ouais, plus immédiates. J'ai pas entendu, moi, dans les contacts que j'ai pu avoir, évoquer ce genre de point, mais imaginez les gens.
Bon, je suis content de vous voir sourire là-dessus, mais c'est vrai qu'après tout, quand on parle de guerre dans l'espace, on se dit que peut-être il y a une personne qui réfléchit quelque part à ça, mais non, pas pour l'instant.
Il me semble pas.
Merci beaucoup Xavier Pascaud d'être venu dans les studios de France Inter pour répondre à nos questions. La Chine durcit nettement le ton manifestants à Hong Kong, alors qu'une nouvelle grande manifestation est prévue demain et interdite. Coup de filet chez les leaders pro-démocratie. L'un des plus emblématiques, Joshua Wong, est une nouvelle fois arrêté à Hong Kong. Florence de Changy.
Selon le président du parti démocrate, Nathan Lau, Joshua Wong a été poussé dans une camionnette banalisée vendredi matin vers 7h30 alors qu'il marchait entre chez lui et la station de métro de South Horizon, la station de son quartier située sur l'île d'Aple Chau, une petite île couverte de tours de logements sociaux reliés au sud de l'île de Hong Kong par un pont. Il a été emmené au commissariat central de Wan Chai. La police a confirmé l'arrestation mais pas ses motifs. Joshua Wong était sorti de prison le 17 juin où il avait terminé de purger une peine de quelques mois pour obstruction et désordre public lié au mouvement des parapluies d'il y a 5 ans. Quelques heures plus tard, la police a annoncé avoir arrêté chez elle Agnès Chow, numéro 3 du même parti démocrate. Un autre leader étudiant, Andy Chan, fondateur d'un parti indépendantiste, à présent interdit, a quant à lui été arrêté à l'aéroport hier alors qu'il partait au Japon. Hong Kong, Florence de Changy, France Inter.
L'actualité internationale en bref, voici un homme perdu dans la forêt amazonienne et qui a l'air de s'inquiéter. Donde están? Où êtes-vous? Cet homme, c'est le président bolivien Evo Morales qui a pendant une heure perdu la trace des pompiers qui l'accompagnaient pour mesurer les ravages causés par les incendies en Amazonie. Alors manifestement, il n'était pas tout à fait seul, hein, puisque la scène a été filmée. Au Brésil, à propos de ces incendies, le déni toujours du président Bolsonaro. Il n'est pas vrai que la forêt amazonienne soit en feu, dit-il. Il accuse la presse brésilienne de catastrophisme. Il interdit tout tout de même, au moins provisoirement, la culture sur brûlis, accusée de provoquer ces incendies. Autre sanctuaire menacé, la Grande Barrière de Corail. Le dernier rapport de l'Australie sur le sujet est inquiétant. Perspective très mauvaise à cause des températures records à la surface de l'eau. L'état de l'habitat du récif présent passe de mauvais à très mauvais.
France Inter, Bruno Duvic.
Et nous en venons à J'ai testé pour vous, notre rendez-vous du vendredi dans ce journal de 13h. Bonjour Philippe Lefebvre.
Bonjour Bruno.
Eh bien, puisque la rentrée approche, cher Philippe, vous avez testé un cartable qui pourrait plaire à Greta Thunberg, hein, et plus encore ses jeunes admirateurs en France, le cartable écolo. Alors reste à savoir s'il va résister plus de 15 jours aux assauts d'une vie d'écolier. C'est ce que vous avez testé, entre autres.
Absolument. Et pour trouver ce cartable, je me suis rendu dans une papeterie parisienne où m'attendait un expert escartable.
Chic,
il s'appelle Christophe Rau et il n'est rien d'autre que le PDG de Tann. C'est une vieille marque française qui existe depuis les années 70. Autant dire que c'est une référence dans le domaine.
Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors dites-moi, j'ai un problème, je dois acheter un cartable pour la rentrée scolaire. Je sais pas combien je dois dépenser. Ça coûte combien aujourd'hui un cartable?
Ça va aller de 15 euros à 150 ou 200 euros si vous avez un cartable entièrement en cuir.
Est-ce qu'il y a des cartables écolo?
Oui, il y en a un qui est très écolo, fait à base de bouteilles plastiques recyclées pour la matière principale qui est du polyester.
Alors là, on a tout le rayon, des roses, des bleus. Alors, on va aller s'installer, on va regarder ce qu'il y a dans le... Venez avec moi.
Ouais.
On va aller regarder ce qu'il y a dans ce cartable. Alors, on l'ouvre classiquement.
Oui.
Donc, il y a deux petites pochettes. Bon, c'est pas flagrant le fait que ce soit fait avec du plastique de bouteilles recyclées.
Alors, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, c'est que si vous donnez un cartable qui est fait à base de bouteilles de plastique ou une autre matière, c'est-à-dire un polyester issu directement du pétrole, un laboratoire est incapable de vous dire si effectivement c'est fait à base de bouteilles de plastique. Et donc, pour fabriquer un cartable, il faut 8 bouteilles de plastique à peu près.
Alors, quand on me dit plastique recyclé, j'ai tendance à dire, bah finalement, c'est moins cher qu'un cartable classique.
C'est plus cher qu'un cartable classique. La matière première qui est de l'éco-polyester, une fois encore, ça vaut à peu près 3,70 $ le yard. Alors qu'un polyester de base, qui lui va être issu directement de la transformation du pétrole, ça vaut 1,30 $, 1,40 $. Donc vous voyez, c'est presque 2,5 fois plus cher sur la matière de base. C'est peut-être moins bon pour mon chiffre d'affaires, ça c'est sûr, mais c'est aussi bon pour la planète parce que la matière utilisée, ce sont des bouteilles plastiques à la base.
On était en pleine période d'achat scolaire dans cette papeterie. Alors le coût de ce fameux cartable, on va appeler le cartable Greta, hein, entre 60 et 65 euros. Mais on nous jure qu'il résiste bien mieux à la terrible épreuve de la cour de récréation que les cartables vendus en grande surface à partir de 16 euros. Il tient au moins 2 ans, donc on s'y retrouve. Seul bémol, car il y a un bémol, le cartable est conçu en France, certes, mais il est fabriqué en Chine, pour une raison toute bête, il n'y a plus d'atelier de fabrication de cartables en France depuis bien longtemps.
Donc il n'a pas un super bilan carbone.
Et moins bon qu'on pourrait l'imaginer.
Merci Philippe Lefebvre pour ce J'ai testé. C'est reparti pour la saison tous les vendredis. J'ai testé pour vous. Et vous retrouvez cette chronique évidemment sur franceinter.fr à la page du 13h. L'actualité du sport. Les Français se sont illustrés cette nuit à l'US Open de tennis. Illustrés, mais pas forcément pour le meilleur. D'abord, ils ont presque tous perdu. Et puis en plus, Benoît Paire a gratifié les spectateurs d'un de ses coups de sang dont il est coutumier, en colère après son adversaire, le Slovène Bedenier. Il a perdu un match qu'il aurait dû gagner 1000 fois et refuse de lui serrer la main à Bedenier à la fin. La voix encore pleine de rage, Benoît Paire explique en conférence de presse.
Quand une personne m'insulte dans sa serviette au changement de côté, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre des sanctions. Que lui, il me parle comme ça, non, il reste chez lui, il parle à sa mère s'il veut, mais il parle pas à moi. Donc moi, j'ai déjà dépassé les règles, on m'a mis des amendes, j'espère que lui, il en aura une belle. Mais dans l'ensemble, je vais essayer de continuer, essayer de bien couper là. Je vais faire une ou deux semaines bien off, où on ne verra pas sur un court de tennis, ça c'est sûr. C'est plus dans les boîtes de nuit. Il faut juste que j'oublie ce match et que je reparte de l'avant.
Autre Français qui s'est illustré beaucoup plus solaire, celui-ci Gaël Monfils. Victoire d'abord, et sur le dernier point, la balle est en hauteur, il saute, fait un tour complet sur lui-même et smash. Monfils le showman, lui aussi en conférence de presse.
On fait un sport, on a envie de se faire plaisir, et donc j'ai de la bonne balle, j'y vais quoi.
Je suis content de l'avoir fait, mais il est pas si mal, hein. Mais il est encore mieux à l'entraînement. Quoi.
Voilà les images et propos de la nuit à l'US Open recueillis par Fabrice Abgral. En football, la 4e journée de championnat de France commence ce soir. Metz-PSG, c'est à 20h45. En rugby, match de préparation avant la Coupe du Monde au Japon. La France reçoit l'Italie au Stade de France. Le stade qui sonnera un peu creux puisque il y a 80 000 places au Stade de France et que ce matin, seulement 30 000 places avaient été réservées. L'actualité de la culture est deux affaires en une à la Mostra. Affaire Dreyfus et affaire Polanski. Le réalisateur franco-polonais consacre son dernier film à l'affaire Dreyfus. Mais une fois de plus, son passé à lui revient à la figure. Les États-Unis refusent toujours de clore le dossier de viol dans lequel Polanski est accusé depuis plus de 40 ans. Et à cause de cette affaire, et plus encore depuis l'essor du mouvement MeToo, les militantes féministes et une partie du monde du cinéma appellent au boycott de Polanski. Venise n'échappe pas à la controverse. Fallait-il ou non programmer ce film? Il est officiellement présenté ce soir, mais le cinéaste a renoncé à faire le déplacement. Envoyé spécial de France Inter à la Mostra, Corinne Pellissier.
Trop d'hostilité, trop de controverses. Un accord d'extradition entre l'Italie et les États-Unis qui court toujours. Seul Emmanuel Seigné, Jean Dujardin et les producteurs du film ont fait le déplacement et sont attendus d'ici quelques minutes pour une conférence de presse qui s'annonce très suivie après la sortie de la présidente du jury, Lucrezia Martel. Sa condition de femme le lui interdit. Elle n'applaudira pas le film de Roman Polanski, contrairement aux premiers journalistes qui l'ont vu ce matin en séance spéciale.
It is another masterpiece of Mr. Polanski. I loved it.
Les premières réactions sont assez positives, même si bien sûr il est difficile de se concentrer uniquement sur l'aspect artistique, ce que beaucoup regrettent.
Oui, évidemment, il fallait l'avoir parce que autrement ça aurait été de la censure. Je trouve qu'il est très dommage qu'on puisse jamais parler de cinéma, de mise en scène, de langage cinématographique.
Hier, Catherine Deneuve, également en compétition à la Mostra, s'est une nouvelle fois exprimée sur le sort réservé au réalisateur et à son film.
C'est embêtant parce que je trouve que ça met tout de suite un jugement défavorable sur le film. Je trouve que c'est quand même très excessif et je trouve incroyable quand même qu'après 40 ans, on en soit encore à insister à vouloir continuer à juger quelqu'un qui a déjà été jugé. Ce serait bien quand même de le voir comme un cinéaste, uniquement un cinéaste.
En attendant la projection, ce soir, c'est le calme. Aucune manifestation, aucune pancarte, simplement des curieux et les traditionnels chasseurs d'autographes qui ont pris place dès 7h ce matin pour ne rien louper de la cérémonie. À la Mostra, Corinne Pellissier, France Inter.
Et le film s'appelle donc J'accuse. Ce vendredi, trois artistes iconiques de la musique donnent de leurs nouvelles iconiques, chacun à sa manière. Nouvel album de Lana Del Rey, Norman Fucking Rockwell, deux inédits d'Alain Souchon avant la sortie de l'album. Vous pouvez écouter cela en partie sur franceinter.fr. Et puis Manu Chao, réédition de l'album Clandestino avec trois titres supplémentaires. Clandestino, c'était en 1998, hommage et défense des migrants. On ne les appelait pas encore comme ça à l'époque. Eh bien, 21 ans plus tard, parmi les trois titres, il y a celui-ci que vous entendez sous ma voix, Bloody Bloody Border, Frontières sanglantes. Les paroles sont lourdes, la musique beaucoup moins. Voilà pour un extrait de cet inédit de Manu Chao. Pour Souchon, allez donc sur franceinter.fr et réécoutez la chronique de Mathieu Conquet ce matin dans la playlist de France Inter. La rédaction et le service web vous l'ont mis en une de notre site franceinter.fr et puis dans la série Artiste Iconique en Côte d'Ivoire. Un dernier hommage est rendu aujourd'hui à DJ Arafat, star dans toute l'Afrique et au-delà. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues à Abidjan. DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Houon, est mort dans un accident de moto à 33 ans. La météo en France, c'est avec Elodie Calac.
Des températures en hausse très estivales, 23 degrés à Saint-Brieuc, 26 à Lille, 27 à Paris, 30 degrés à Tours, Nancy, Bastia, 32 à Bourges, Clermont-Ferrand et Bordeaux, 34 pour Montauban, pour Perpignan et jusqu'à 37 à Nîmes. Tout ça sous le soleil, juste quelques nuages élevés sur le nord-ouest, au nord de la Seine, en région parisienne, mais rien de bien méchant. Et puis en montagne, ça devient à nouveau instable, quelques averses sur les Vosges, un risque d'orage sur les Pyrénées, le Massif central, le Jura, le relief Corse, un risque d'ailleurs plus marqué des Alpes du Sud vers l'intérieur de la Provence. Le week-end sera contrasté. Demain, de la chaleur, beaucoup de soleil, un risque orageux en montagne, quelques gouttes sur la Bretagne. Et puis dimanche, plus de nuages, quelques pluies ou orages sur le sud et l'est et des températures en nette baisse.
Merci Elodie. Le casting du journal de 13h cette semaine. À la technique, il y avait Clément Berman et Michel Bézikian. À la rédaction en chef, Estelle Schmitt et Lionel Thompson. Merci également à Sylvain Lesage et Sébastien Donat. Dans quelques instants, la Terre au carré avec Mathieu Vidard.